Bonjour à toutes et à tous. D'après nos calculs, il s'agit de la 40e émission que nous proposons sur l'Europe et l'Union européenne à cette antenne. Avant le 9 juin, nous pensions vous proposer une analyse complète des résultats des élections européennes, mais l'actualité fait que nous allons nous adapter et vous proposer trois sujets. En premier lieu, nous parlerons bel et bien des européennes pour lesquelles nous avons tant œuvré auprès du public et notamment des primo-votants. Dans un second temps, nous parlerons des législatives qui approchent à grands pas. Et enfin, nous aborderons en quelques mots le sujet qui fait trembler les hautes sphères de l'Union européenne, le changement de présidence du Conseil de l'Union européenne en faveur de la Hongrie. Commençons dès à présent par les élections européennes de 2024, où les résultats ont profondément transformé le paysage parlementaire. Le groupe Renew Europe et les Verts ALE ont perdu quelques sièges, tandis que les groupes eurosceptiques et nationalistes comme Identité et Démocratie, ID, ont gagné du terrain.
Exactement. Bonjour aux auditrices et aux auditeurs. Alors j'enchaîne, puisqu'avec 83 sièges à l'heure à laquelle nous parlons, le groupe des conservateurs et réformistes européens, ECR, a même renforcé sa position. Le groupe ID en a obtenu 58. Ces résultats reflètent un déplacement des électeurs vers des positions plus conservatrices et eurosceptiques.
En France, le Rassemblement national, RN, a obtenu environ 31,47% des voix, soit une trentaine de sièges au Parlement européen. Une augmentation plus que conséquente par rapport aux élections de 2019 où ils avaient remporté 23 sièges avec 23,34% des voix. Ce succès est particulièrement marqué dans les zones rurales et parmi les ouvriers et employés.
Le parti Renaissance, lui, représentant la majorité présidentielle, a obtenu 14,56% des voix et 13 sièges contre 22 sièges en 2019. Si cette perte reflète peut-être une déception des électeurs face aux politiques européennes actuelles, cela dit aussi quelque chose de fort sur la déception des électeurs français vis-à-vis du parti présidentiel.
Il y a aussi le Parti Socialiste et Place Publique avec Raphaël Glucksmann qui ont recueilli 13,80% des suffrages, soit deux fois plus qu'en 2019, ce qui correspond également à 13 sièges et ce qui est une nette amélioration par rapport aux 6 sièges d'avant. De son côté, la France Insoumise avec Manon Aubry a reçu 9,87% des voix, soit 9 sièges, une légère hausse par rapport aux 6 sièges aussi obtenus en 2019.
Les nouveaux rapports de force au Parlement européen auront donc un impact important sur l'élection du prochain président du Parlement, ainsi que sur les nominations aux top jobs de l'Union européenne, tels que les présidents de la Commission européenne et du Conseil européen. En 2019, les discussions pour ces postes avaient été marquées par des négociations intenses entre les principaux groupes politiques, ce qui est normal. Cette année, avec une fragmentation accrue, ces négociations seront encore plus complexes. Elles le sont par ailleurs déjà.
Le PPE, le Parti Populaire Européen, traditionnellement le groupe le plus influent, celui des conservateurs de la droite européenne traditionnelle, pourrait voir sa domination contestée par ces nouvelles dynamiques. Les discussions pour former une coalition sont et seront cruciales pour déterminer les priorités législatives de l'UE pour les prochaines années.
Il y a aussi des spéculations sur le rôle des nouveaux partis et des députés indépendants qui pourraient très éventuellement jouer un rôle de faiseur de roi dans ce contexte fragmenté. Les enjeux sont donc élevés, notamment pour les politiques climatiques, économiques, migratoires.
Parlons à présent du lien entre l'Assemblée nationale française et l'Union européenne. Depuis l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale par le président Emmanuel Macron au soir du 9 juin, la confusion généralisée ne doit toutefois pas nous empêcher de nous pencher sur le rôle possible de l'Assemblée nationale en matière européenne. L'Assemblée nationale joue en outre un rôle crucial dans la transposition des directives européennes en droit national et surtout le contrôle de la subsidiarité.
Absolument. Par exemple, c'est tout bête, il se trouve que c'est aussi la Commission des affaires européennes de l'Assemblée nationale qui examine les propositions législatives de l'Union européenne et surveille la mise en œuvre des politiques européennes en France. Ce n'est donc pas négligeable.
Une des fonctions principales de cette Commission des affaires européennes de l'Assemblée nationale est d'ailleurs aussi de s'assurer que l'échelle de la transposition respecte le principe de subsidiarité, c'est-à-dire du traitement politique au niveau le plus efficace, national ou local, sauf bien sûr si une action à l'échelle de l'UE est plus appropriée.
Il est par ailleurs intéressant de noter les différences de scrutin entre les élections européennes et les élections législatives, car le confusionnisme ambiant n'aide pas à avoir à l'esprit les différences majeures d'un scrutin et de ses défis à un autre scrutin et ses défis propres. Les élections européennes utilisent effectivement un scrutin proportionnel de liste à un seul tour, tandis que les législatives françaises utilisent un scrutin majoritaire à deux tours. Cela explique en partie pourquoi des partis comme le Rassemblement National réussissent mieux aux européennes. La proportionnelle est en effet le meilleur moyen d'être certain d'obtenir des élus en fonction de son score, en tout cas s'il est supérieur à 5% dans le cadre du scrutin européen, ce que ne permet pas un scrutin majoritaire comme celui des législatives françaises.
Le scrutin proportionnel permet une meilleure représentation des partis minoritaires, alors que le scrutin majoritaire favorise les grands partis, les individualités bien établies. Cela modifie considérablement la dynamique politique entre ces deux types d'élections. Cette différence de scrutin reflète aussi des stratégies politiques variées, où les partis doivent adapter leur campagne et leur discours en fonction du type d'élection. Les élections européennes permettent à des voix plus diverses de se faire entendre au Parlement européen, ce qui peut influencer la législation européenne, disons d'une manière plus représentative de l'ensemble de la population européenne votante.
Alors les 30 juin et les 7 juillet prochains, nous sommes amenés à nous prononcer en faveur d'un député par circonscription nationale, sachant qu'il en existe 577 en tout. Le Finistère, par exemple, en a 8. Selon que nous votons pour un député du RN, du Nouveau Front Populaire ou de Renaissance, ou d'un autre candidat encore, par exemple divers droite ou divers gauche, les dynamiques parlementaires nationales, en la faveur ou en la défaveur de la construction européenne, ne seront ainsi pas les mêmes. Le cas du Nouveau Front Populaire est singulier, puisque la relation et l'attachement aux faits européens varient du tout au tout, entre les candidats NPA et LFI d'une part, Nouveau Parti Anticapitaliste et La France Insoumise, par exemple, et les candidats socialistes et écologistes d'autre part. Il est ainsi important de pouvoir faire son choix en conscience. Rappelons par ailleurs que c'est l'Assemblée nationale qui vote le budget, notamment celui des armées, et donc le soutien au bouclier de la résistance ukrainienne, par exemple. Ce n'est donc pas une question anodine. Si les sujets européens, internationaux et géopolitiques globalement vous intéressent et sont en mesure d'influencer votre vote.
Et enfin, et ce sera notre dernier sujet du jour, nous allons aborder la prochaine présidence hongroise du Conseil de l'Union européenne. La Hongrie, actuellement dirigée par Viktor Orban, prendra la présidence tournante de juillet à décembre 2024, ce qui suscite de vives controverses. Pour rappel, la présidence tournante permet de fixer les principales préoccupations des États à l'ordre du jour de l'Union européenne. La Belgique, qui termine sa présidence, a même tenté à quelques reprises de profiter de sa propre présidence tournante pour engranger des soutiens afin de contribuer à bloquer les Hongrois dans leur velléité de ne pas faire avancer suffisamment rapidement l'UE sur des sujets jugés phares comme le soutien à l'Ukraine.
Oui. Et la Hongrie est en outre régulièrement accusée de bafouer les valeurs démocratiques de l'Union européenne, notamment en ce qui concerne la liberté des médias, l'indépendance de la justice ou encore les droits des minorités.
Le Parlement européen a exprimé des doutes sur la capacité de la Hongrie à diriger efficacement le Conseil de l'UE. Certaines propositions, dans la lignée de ce que souhaitaient notamment les Belges, ont même visé à réduire la coopération avec la présidence hongroise au strict minimum.
La Hongrie, elle a pourtant des objectifs qu'elle affiche comme ambitieux pour sa présidence, notamment la réforme, encore après le tout récent pacte asile et migration, et bien la réforme des politiques migratoires. On constate même un slogan inspiré de Donald Trump pour cette présidence tournante qui arrive, à savoir « Make Europe Great Again ».
Bref, la légitimité de cette présidence est contestée et l'UE pourrait se trouver dans une situation délicate si des blocages survenaient de plus en plus fréquemment, comme ce fut le cas pour plusieurs sujets sensibles assez récemment encore. La vigilance de l'engagement citoyen seront essentielles pour surveiller cette période critique.
Tout à fait. Si d'aucuns pensent que c'est une période charnière pour la France, ça l'est au moins autant pour l'Union européenne, et chaque citoyen a un rôle à jouer pour garantir que les valeurs fondamentales de l'Union européenne soient respectées et défendues. Les 6 mois à venir seront déterminants pour l'avenir de l'Europe et de la France en son sein, d'autant plus si c'est un Premier ministre et un gouvernement eurosceptique que les Français auront choisi d'ici là.
La présidence hongroise sera aussi un test pour l'UE dans sa capacité à gérer les tensions internes, tout en avançant sur des dossiers cruciaux comme le climat, le phénomène migratoire, l'économie et la défense commune. Alors, merci de nous avoir écoutés pour ce 40e numéro dont on espère qu'il vous aura éclairé sur les enjeux et défis actuels de l'UE.
Restez informés, restez engagés, car l'avenir de l'Europe et l'avenir de l'UE dépendent de chacun de nous. À la prochaine, n'oubliez pas d'aller voter de nouveau dès dimanche.
Et le 7 juillet.